France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Il n'y aura pas de vaches au Salon de l'agriculture qui ouvre ses portes samedi 21 février. Alors, on vous en parle dans Les pieds sur terre. Au départ, on voulait évoquer la dermatose bovine contagieuse, l'épizootie responsable de cette absence, qui sévit depuis l'été 2025 en France. Vous racontez ce qui se passe dans une famille quand la décision d'abattre le troupeau entier est prise à la suite de la contamination d'un ou plusieurs bovins, comme le recommandent les autorités. On voulait raconter ce que vit la famille Lhomme en l'occurrence, il s'appelle comme ça, la mobilisation autour d'elle et le soutien qu'elle a reçu aussi bien du syndicat paysan de José Bové, la Confédération paysanne, de la coordination rurale réputée proche de l'extrême droite et même encore plus étonnant d'une ancienne adhérente des JA, la branche jeune de la FNSEA, le syndicat qui défend la position des autorités. On a nulle prétention, je précise, à analyser scientifiquement la pertinence des mesures prises par le gouvernement auxquelles les éleveurs s'opposent. Pour ça, je vous renvoie par exemple à plusieurs émissions de France Culture, très complètes, notamment la Science CQFD du 23 décembre. On voulait juste, comme toujours, comprendre ce que vivent les gens, qui ils sont et entendre leur point de vue. Sauf qu'à la fin, comme vous allez l'entendre, ce qu'on raconte aujourd'hui est bien plus profond. C'est l'histoire d'un dialogue parfaitement rompu entre les citoyens et l'État, une défiance qui s'est installée, et pour un bon bout de temps, on dirait. Un reportage de Pauline Mocor.
Je suis Céline Lhomme, je suis la femme de Cédric Lhomme, éleveur dans le Doubs. Alors, on est dans un petit village qui s'appelle Pouillet-Français, donc qui est à côté de Besançon. La ferme, c'est une petite ferme familiale qui comptait 83 bovins. Vaches, génisses, petits veaux. Donc, mon mari est installé depuis 2004 à la fin de ses études. Il s'est mis associé avec ses parents, donc sur la ferme familiale. Donc, moi, à côté, je suis auxiliaire puéricultrice. Mais quand on vit avec un agriculteur, même si on n'est pas officiellement dans la ferme, on est dedans quand même. Notre vie tourne autour de l'exploitation. Nos vaches, elles font vraiment partie de notre vie, quoi, en fait, de tous les jours. On a un lien très fort, enfin, on avait un lien très très fort avec elles. C'est des bêtes, du coup, qui sont nées dans l'exploitation. On les voit grandir, elles nous connaissent. Et quand on leur parle, qu'elles sont au champ, qu'on leur parle, elles viennent chercher des gratouilles. Enfin, c'est nos filles, quoi. C'est nos bébés. C'était nos bébés. Nous, la première fois qu'on en a entendu parler de la DNC, donc dermatose nodulaire contagieuse, c'était cet été. Les vaches tombaient malades et agonisaient dans des souffrances qui étaient extrêmement dures. Donc du coup, il fallait abattre tout le troupeau. Et, sauf que du coup, à l'automne, il y a eu le cas dans le Jura qui est arrivé, donc dans la petite commune d'Écleux, et après de Chamblay. Et là, en fait, on a commencé à recevoir des mails comme quoi on était en zone du coup un peu plus ou moins à risque et qu'il fallait qu'on lance la campagne de vaccination. Donc, le mercredi 22 octobre, ils sont venus vacciner nos bêtes. On nous a dit qu'il y avait 21 jours pour que le vaccin fasse effet. En fait, on a mis vraiment nos bêtes en quarantaine pendant 3 semaines, le temps que la vaccination se fasse, pour les protéger. Et le 27 novembre au soir, ça fait plus de 3 semaines, ça fait 35 jours. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être un truc comme 35-36 jours. On s'aperçoit qu'il y a un petit nodule sur le pied d'une vache. Ça fait comme une espèce de grosse verrue. Donc, mon beau-père et mon mari ont décidé d'appeler le vétérinaire. Le vendredi matin, le vétérinaire vient. Et lui, il est assez confiant. Il nous dit que c'est une réaction vaccinale et que de toute façon, même si c'est la DNC, ce sera du cas par cas parce qu'on est à 35 jours de vaccination. Mais il appelle quand même les services vétérinaires pour savoir ce qu'il faut faire parce qu'il ne savait pas. Donc les services vétérinaires ont dit qu'il faut faire 4 prélèvements sur les nodules et il faut faire une sérologie, donc une prise de sang, qui vont partir en analyse pour être sûr que c'est bien une réaction vaccinale. Les services vétérinaires appellent mon mari en disant qu'ils ont bien réceptionné l'échantillon, que ça partait en analyse, mais pareil, qu'il fallait qu'on soit rassuré parce que de toute façon, on était à 35 jours de vaccination et c'était du cas par cas. Du coup, le cas par cas, ça veut dire que ça concernait uniquement cette vache-là, que les autres, vu qu'elles sont vaccinées, en fait, elles, en gros, elles ne craignaient rien. Et le vendredi soir, en fait, nouveau coup de fil qui nous annonce que, mauvaise nouvelle, c'est bien le virus de l'ADNC qui est présent sur la vache. Et c'est le virus sauvage, ce n'est pas le virus vaccinal. Et là, mon mari dit, bon, bah du coup, qu'est-ce qui se passe pour cette vache? Et là, en fait, il y a eu un grand blanc au téléphone. Il a dit, non, mais c'est la première fois qu'on a un cas aussi loin dans la vaccination. Je ne peux pas vous dire. On vient demain matin pour en parler. Le vendredi soir, donc on a les gendarmes qui arrivent à 21h à la ferme pour s'assurer qu'on ne fait pas de transport illégal de bêtes, pour s'assurer qu'on ne va pas cacher des bêtes. On est un petit peu traités un peu comme des criminels, alors qu'on n'a rien fait, quoi, au final. On était vraiment suspects. Et le lendemain matin, il y a les services vétérinaires qui arrivent, donc ces deux femmes, qui sont mandatées par l'État, ça vient de nous dire qu'elles sont mandatées par l'État, qui nous parlent, qui nous expliquent ce que c'est que l'ADNC, qui nous expliquent à quel point c'est dangereux, à quel point c'est contagieux. Et là, à la fin, elles nous disent, on n'a pas d'autre choix que de faire un abattage total du troupeau. Donc quand ils nous ont annoncé qu'ils allaient abattre le troupeau, je les ai regardés, j'ai dit, je vous préviens, là en fait vous êtes en train de nous envoyer en enfer, mais par contre vous allez couler avec nous, je dis, parce que je vais faire du bruit. Et là, en fait, on est sidérés. On ne comprend pas. On dit, mais elles sont vaccinées depuis 35 jours. Et on nous dit, oui, mais c'est de la prévention. Parce que, en fait, des vaches peuvent être porteuses saines et potentiellement contaminées. Mais oui, mais elles sont vaccinées. Donc, du coup, ce n'est pas logique. Le vaccin, il sert à quoi dans ces cas-là? Quand ils nous donnent l'arrêté, sur le coup, on n'a pas de date. Et c'est après, ils nous rappellent pour nous dire, l'abattage sera le mardi 2. Donc de là, moi, j'ai contacté la presse, j'ai contacté le député de ma circonscription, j'ai contacté la mairie, j'ai contacté tout le monde. La coordination rurale et la confédération paysanne se sont mis ensemble. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau parce que c'est des syndicats qui sont complètement opposés. Et donc ces syndicats, en fait, ont déposé une motion de recours au tribunal administratif pour stopper l'abattage. Eux, ce qu'ils demandaient, c'est que notre ferme, en fait, devienne une ferme test et qu'on voit avec le vaccin comment la maladie évolue au sein de la ferme. Donc c'est la demande qu'on a faite devant le tribunal administratif de Besançon. On avait fait un appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux à partir de 8h, puisqu'ils devaient venir à la base abattre à 9h30. Dès la veille au soir, ils empêchaient les manifestants de venir. Il y avait des barrages de gendarmes. Tout le village a été bouclé. Donc le lendemain matin, moi je me suis levée, il était 7h du matin, je me prépare, enfin vraiment, voilà, je prends mon petit temps, je prépare mon thé. Et là en fait, heureusement que je m'étais préparée en amont, parce que j'ai les enfants d'un coup qui ouvrent la porte en me disant « Maman, maman, viens vite, il y a des camions de CRS qui arrivent, il y en a plein la rue, il y en a partout. » Et quand je suis sortie, effectivement, tout le long du chemin, donc c'est un chemin qui est au milieu des champs, ça faisait une guirlande de phares jusqu'à perte de vue de camions de CRS. Ils ont entouré les bâtiments de la ferme. Donc nous, on est vite rentrés dans les tables. On a vite fermé toutes les portes, essayé de barricader et tout pour pas qu'ils puissent rentrer par derrière. Donc les gens ont quand même réussi parce qu'il y avait un plan qui circulait sur les réseaux sociaux en privé. Comment, en passant par la voie ferrée, puis par les bois, puis les champs, on pouvait nous atteindre. Il y a à peu près 300 personnes qui ont réussi à venir sur vraiment autour de la ferme. Et les autres, en fait, étaient dans la rue, étaient bloqués dans la rue. Mais dans la rue, en tout, je pense qu'on était, peut-être 800, 1000. Enfin, c'était noir de monde. On s'est dit, c'est énorme, en fait, cette mobilisation. Tous les voisins, tout le monde était là pour stopper l'abattage. On a des gens qui venaient de Bretagne, on a des gens qui venaient des Vosges, qui venaient en tracteur, et des gens de partout, du Jura, du Doubs. Et là, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, ils ne peuvent pas aller au bout. C'est pas possible, ils vont revenir sur leur décision. Ils ne peuvent pas abattre avec la mobilisation qu'il y a. Donc voilà, donc le tribunal devait statuer à 11h. À 11h, ils n'arrivaient pas à statuer, donc c'était midi. Après, c'était 13h. Et nous, on attendait. Et après, on a appris que le tribunal n'arrivait pas à statuer, donc que ça repartait au ministère, donc entre les mains de la ministre de l'Agriculture. Il y a un moment, on a un gradé de la gendarmerie qui veut nous parler. Donc on va le voir et il nous dit qu'il faut dégager les tracteurs parce qu'il y a le protocole sanitaire qui arrive pour l'abattage et le protocole est long à mettre en place et du coup il faut qu'on puisse passer. Et nous on a dit qu'il y a un recours qui est en cours. Tant que le recours ne nous aura pas donné tort, les tracteurs ne bougeront pas et les services vétérinaires ne viendront pas. Et là ils nous ont répondu, dans 5 minutes si vous n'avez pas dégagé les tracteurs, on les dégagera nous-mêmes. Du coup, ce radé à qui on a parlé, qui a un mégaphone et qui nous demande de première sommation, d'évacuer les lieux, deuxième sommation, et on va faire usage de la force. En fait, ils nous préviennent. Et au moment où on finit de chanter la Marseillaise, il y a les bombes de lacrymo et de LBD qui pètent de tous les côtés. Sachant que nous, on n'était absolument pas armés. Et juste parce qu'on n'a pas voulu, en fait, dégager les tables, ben, en fait, on s'est fait gazer. Ça fait des boums, des bam. Donc mon fils s'est pris un LBD dans la jambe. Par chance, il a eu un bleu, mais voilà, il n'a pas été blessé plus que ça. Et moi, non, je me suis mis à suffoquer. Enfin, ça piquait les yeux, ça me prenait à la gorge. C'était horrible, quoi. Pendant tout ce moment-là, je pensais aux vaches parce qu'en fait, ces scènes de violence ont eu lieu devant les tables et mes petits veaux étaient juste à côté. Mes petits veaux ont pris de la lacrymo. Et là, d'un coup, on a vu des énormes fourgonnettes blanches, des tracteurs, des télescopiques et tout arriver. On savait très bien que le télescopique, c'était pour choper les corps de nos vaches, une fois qu'elles étaient euthanasiées. On a commencé en fait à crier. Les manifestants qui étaient dans le champ ont pris de la boue. Et en fait, c'était symbolique. Ils ont jeté de la terre sur les camions pour montrer en fait que nous, on se faisait gazer la tête, qu'on se faisait bousculer à coups de bouclier, qu'on se faisait prendre des tirs de LBD. Et que nous, tout ce qu'on avait pour se défendre, bah, c'était de la terre, quoi. La réponse des CRS à ce moment-là a été des nouveaux tirs de LBD et des gaz lacrymo sur les manifestants. Et en fait, ça fait un nuage de fumée blanche qui fait que les manifestants n'ont pas pu voir en fait tout ce qui arrivait. Et à aucun moment, ils sont venus ne serait-ce que nous voir. Alors qu'on était quand même les propriétaires, ils étaient chez nous. C'était l'État qui était maître de notre terrain, quoi. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à s'installer par derrière. Nous, on ne les voyait pas parce qu'il y avait le bâtiment qui gênait. C'était toujours en cours. Et là, à tout moment, voilà, on en voyait un ou deux qui rentraient dans les tables et qui repartaient et qui ouvraient les portes et qui refermaient et qui rentraient à plusieurs et qui ressortaient. Et là, par contre, on entendait les vaches. On entendait les vaches qui commençaient un petit peu à beugler parce que du coup, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de mouvement dans les tables, chose que nous, en fait, on a protégée jusqu'au bout. Et en fait, là, d'un coup, eux, ils n'en ont rien eu à faire. Et là, en fait, je vois les CRS qui appellent une personne des syndicats, la porte-parole de la conf. Et là, je vois des gens en combinaison qui rentrent dans les tables et qui ferment la porte. Et là, elle m'appelle, elle me dit « Viens vite avec Cédric ». Et là, en fait, bah, je comprends. Je fais « C'est fini ». Puis elle me dit « Oui, c'est fini ». Ils vont commencer à battre. Elle m'a dit « Bon, je vais aller l'annoncer ». Je lui ai dit « Non ». Je lui ai dit « Tout est parti de moi ». Je lui ai dit « C'est symbolique que ce soit moi qui l'annonce aux manifestants ».
Nous venons d'avoir les résultats du tribunal qui ont ordonné l'abattage du troupeau. Voilà, on a perdu. On a tout perdu. On voulait vraiment, avec mon mari, vous remercier. Vous remercier vraiment de votre soutien. Ce que vous avez fait pour nous, c'est énorme. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Maintenant, ceux qui veulent rester peuvent rester. On veut plus de confrontation, on veut plus rien. On veut du calme, là, en fait. Pour que nos bêtes puissent partir dans la dignité. Et j'espère que plus jamais, un seul agriculteur n'aura subi ce qu'on est en train de subir aujourd'hui. Merci à tous.
À ce moment-là, on pensait à tout. À tout. On pensait à nos bêtes, on pensait à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'était tellement injuste et jusqu'au bout, on y a cru. Et là, en fait, quand j'ai vu ces cosmonautes rentrer, ben, en fait, j'ai dit non, ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, quoi. Tout le monde pense que des vaches, c'est bête. Une vache, c'est stupide. C'est qu'un animal. Mais une vache, c'est très intelligent. Et il faut savoir qu'en fait, ils avaient mis un couloir de contention dans l'allée de l'étable. Et ils mettaient les vaches passées une par une à la queue leu-leu. Et en fait, du coup, il y avait les vétérinaires qui étaient là, qui les endormaient. Elles s'effondrent. Et une fois qu'elles s'effondrent, on les euthanasie. Mais les copines qui étaient derrière, elles voyaient la copine de devant s'effondrer. On va pas me faire croire qu'une vache, c'est stupide au point de pas avoir senti la mort arriver. Et tout le village est extrêmement choqué de ça. Parce qu'en fait, c'est les bruits des vaches qui beuglaient résonnaient dans tout le village. Donc après, nous, on est rentrés. On n'a pas voulu assister à l'abattage. Et en fait, à tout moment, on entendait « Blam !» Et puis après « Papapapam !» Et en fait, c'était les corps de nos vaches qui tombaient dans l'ébène. Il faut dire aussi qu'il y avait les camions de CRS qui étaient devant l'ébène. Sauf qu'en fait, bah, les camions de CRS sont plus petits que l'ébène. Et puis, donc, tous ceux qui passaient dans la rue, les enfants à 16h30, quand ils sortaient de l'école, qui sont remontés la rue à pied parce qu'on les a empêchés de passer en voiture, eh ben, en fait, de la rue, on voyait la pince qui lâchait les vaches dans les bennes. Donc à 19h, les services, la cellule psychologique est arrivée. Heureusement qu'ils sont arrivés, parce que quand ils sont arrivés avec mon mari, on était en train de péter les plombs dans la cuisine. Vraiment, la pression qui retombait, les bruits, parce qu'on avait mis la télé très fort. Et du coup, en fait, nous, on a eu le réflexe d'éteindre la télé. Et on n'arrivait pas à parler. Et il y a un moment, en fait, je les regarde, puis je dis, vous avez entendu, là, le boum? Puis ils m'ont dit oui. Puis j'ai fait, bah, ça, c'est le corps d'une vache qui vient de tomber dans la benne. Et là, ils nous ont regardés, ils nous ont dit, rallumez la télé, on va faire avec. C'était inhumain, en fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, en fait, c'était vraiment l'horreur. Et à 22h, un peu plus de 22h, mon mari a reçu un SMS. Intervention terminée, on vous recontacte demain, les services vétérinaires. Donc on a su que ça y est, toutes nos vaches étaient mortes. Dans un SMS comme ça. Intervention terminée. Voilà, eux, c'était juste une intervention. Ils ont massacré 83 bêtes. Voilà. Cette journée d'horreur. On va être indemnisé, mais quand ? Ben, on ne sait pas. En fait, là, notre vie, depuis le 2 décembre, elle est en stand-by. On attend. On attend, après les services de l'État. On avance au jour le jour. On est dans l'angoisse en permanence, parce qu'on ne sait pas où on va. Pour l'instant, en fait, on n'a pas d'avenir au niveau professionnel pour mon mari, parce qu'on ne sait pas où on va. Tout ce qu'on me reproche, d'avoir divisé le monde agricole. Le monde agricole était déjà divisé d'avant. Parce que du coup, les citoyens, les gens qui sont hors agricole, ont pu se rendre compte de qui était la FNSEA, et qui était la CIR, et qui était la Confédération Paysanne, et qui était les JA. Quand le président de la FNSEA dit que l'abattage total s'est justifié, et qui prône ça, et puis que nous, derrière, on dit « bah non, en fait », et qu'on démontre par A plus B que c'est pas justifié, bah forcément que ça crée une division.
Ben moi j'ai 24 ans, Justine, donc je suis issue de famille d'agriculteurs. Et je suis donc installée avec mon conjoint William, qui a 24 ans aussi. Et on s'est rencontrés sur les engins agricoles. Moi j'ai intégré les JA de Bouclan, les jeunes agriculteurs. J'ai été aussi présidente donc, du canton du premier plateau à Bouclan, bah, 2 ans de temps, un mandat. Et puis, tout a basculé cette année suite à la DNC. Ma foi, je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé, donc appuyé français, ça m'a complètement révoltée. Et là, on m'a sorti des choses comme quoi, ça servait à rien d'aller là-bas. De toute façon, que j'étais un vecteur de la maladie parce que j'étais allée là-bas. Et puis après, sinon, sur place, j'ai retrouvé aussi d'autres JA, quand même, qui, eux, avaient eu un appel de la présidente des jeunes agriculteurs du Doubs pour leur interdire d'aller là-bas, qu'ils n'avaient rien à faire là-bas. Et moi, quand j'ai su ça, ça m'a révolté. Je dis, en fait, si on ne peut plus rien faire, même qu'on fasse partie d'un syndicat, je dis, moi, je jette l'éponge. Mon copain, après, c'est vrai que... il a vu ce qui s'est passé aussi, parce qu'il était avec moi... appuyé français, et puis il s'est dit non, mais moi c'est bien, les jeunes agriculteurs, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, j'arrête aussi, quoi. C'est vrai qu'on a intégré les deux, la coordination rurale, quoi. Et du coup, comme on fait plus partie des jeunes agriculteurs, toute personne qui est plus jeunes agriculteurs, il n'a pas le droit de participer au concours de labour. Le concours de labour, du coup, c'est on vient avec notre tracteur et donc une charrue pour retourner la terre. C'est organisé par les jeunes agriculteurs, du coup. Et on va juger, du coup, le plus beau sillon de terre, quoi. J'ai fini par vendre ma charrue de colère, parce que c'était vraiment à contre-cœur. Et puis aujourd'hui, je préfère aller, je dis pas, je vais aller sur les manifestations des jeunes agriculteurs, je m'en fiche. Mais j'irai juste pour boire un coup, puis c'est tout. Voilà. Je ferai comme eux, parce que pour boire des canons et faire un barbecue, il y a du monde. Par contre, pour défendre notre métier, on a pu le voir appuyé français, il n'y a plus personne. Voilà.
Mais suite à la mobilisation chez les LOM, c'est vrai qu'on a eu une vague d'adhésion qui est arrivée en ligne. Hein. La plupart du temps, c'est des adhésions en ligne, des gens qu'on ne connaît pas, qui ont pris contact avec nous, qui se sont mobilisés, appuyés, et puis qui peut-être nous suivront plus tard, j'en sais rien. Donc Nicolas Bonguet, je suis installé en agriculture en lait AOP, Comté et Mont d'Or, depuis quelques années en bio, à Lavrine, près de Pontarlier. Et du coup, ben, je m'occupe un petit peu, enfin même pas mal, de la coordination rurale au niveau départemental. Donc la famille LOM nous a contactés, donc on est allé voir le pourquoi du comment, qui c'était, on connaissait pas. Donc on a eu toutes les explications, hein, et la famille LOM est très transparente, et c'est des gens honnêtes, des gens sans histoire. Donc on s'est dit, ben, si ils ont envie d'un soutien, on va faire ce qu'on pourra. Dans l'urgence, c'était de bloquer l'abattage. Donc la ferme des LOM, là, elle aurait pu servir de cas d'étude pour en connaître davantage sur la DNC, parce que les experts, ils sont quand même perdus sur pas mal de points. Ouais, on aurait pu creuser un peu le sujet quand même. Donc Laurence Lyonnais de la Conf qui m'a contacté en disant, qu'est-ce que vous faites? Ils nous ont appelé aussi, est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Comment on réagit? On n'a pas les mêmes idées, on les respecte. Dans le doux, ça se passe plutôt bien. Mais voilà, ça s'est déjà accroché avec la coordination rurale au niveau national. C'était sur des appels au sabotage de mégabassines. On n'a pas les mêmes idées là-dessus, les mêmes modes d'action. Et puis, sur le sujet de la DNC, on a les mêmes idées. Mais on fait avancer les idées, c'est l'essentiel. Bah, depuis la mobilisation sur la DNC, on sent la FNSEA plutôt agressive envers les autres syndicats, notamment la coordination rurale et donc la CONF aussi. Voilà, donc ils essaient de nous associer au RN dès qu'ils peuvent. Ils essaient de salir un peu les autres avec des idées politiques pour garder un peu leur trou, pour essayer de contenir un peu leurs adhérents. Je dis pas qu'il faut voter les filles, hein. On est à politique, on discute avec tout le monde. Mais quand on va négocier avec la CONF, qu'on est deux syndicats à parler à un préfet ou une ministre, on a quand même plus de poids que quand on est tout seul. Surtout quand on est deux syndicats qui sont plutôt opposés. Ou sont alliés pour défendre la famille d'hommes.
Je suis Laurence Lyonnais-Meslob. Paysanne à Saint-Juan, on est installé avec Mehdi, mon mari, et je suis aussi porte-parole de la Confédération Paysanne du Doubs, territoire de Belfort.
Mehdi Meslob, je suis paysan donc sur la ferme de Saint-Juan avec mon épouse. Je suis installé depuis bientôt 10 ans, j'ai repris une ferme familiale que j'ai diversifiée. Donc les AOP Comté, port plein air, maraîchage... Et puis polyculture.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est à quel point ça a pris une ampleur d'angoisse dans nos nuits, dans nos conversations, dans les conversations familiales. On a tous fait le cauchemar que ça allait arriver chez nous. Les enfants dans toutes les familles ont pleuré en se disant que ça pourrait peut-être être leur vache et leur veau. C'est entendre son mari, son compagnon dire « de toute façon, si jamais ça arrive chez nous, ils auront ma peau avant d'avoir la peau de mes animaux. » Donc au nom de la CONF, on affirme qu'on ne laisse pas les éleveurs seuls. Quelle que soit la carte syndicale de l'éleveur concerné, du moment qu'il demandera un soutien contre l'abattage, on sera présent. Et le mardi, donc le jour où l'abattage a été décidé, donc à un moment, c'est vrai qu'on est entouré par les forces de l'ordre depuis 7h30, et on sent que les forces de l'ordre se rapprochent de nous. Les réflexes qu'on a dans ces cas-là, c'est de se mettre bras-dessus, bras-dessous, et face au cordon de force de l'ordre, de faire nous aussi un cordon militant. Et donc moi, j'ai Céline Lhomme à ma droite, et puis après ça alterne, hein, deux militants de la CONF, et puis après il y a des militants de la CR. Alors eux, ils le font moins naturellement, parce que c'est pas forcément leur mode d'action. Nous, on chante paysanne-paysan, et ben eux, ils chantent la Marseillaise, mais au moment où ils prennent les lacrymos, ils militent un peu comme une bande de supporters, quoi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est la Marseillaise chant des révolutionnaires de 1789 ou est-ce que c'est la Marseillaise de Le Pen? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, à part dans un stade, chanter la Marseillaise, sinon, c'est connoté à droite, voire à l'extrême droite, quoi. Donc, après, y a des interpellations qui partent du côté des manifestants vers les forces de l'ordre. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes plus courageux pour venir s'en prendre aux paysans dans la cour de la ferme plutôt que d'aller vous occuper des trafiquants dans tel ou tel quartier. Donc, c'est les noms des quartiers de Besançon qui sortent à ce moment-là. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, on se regarde avec les copines de la conf. Voilà, on se dit, ouais, c'est raide d'entendre tout ça. Et c'est la copine maraîchère de Besançon, à un moment donné, qui dit « Non, mais ça suffit, quoi. Moi, j'ai grandi dans ces quartiers populaires. Je peux vous dire que la vie avec des contrôles faciès, avec beaucoup de pauvreté, de précarité, et c'est vraiment très dur à vivre. Et puis, vous entendre dire qu'il faudrait aller casser la gueule des gens dans ces quartiers, moi, j'y ai des amis, j'y ai vécu toute mon enfance, et c'est insupportable, quoi. » Ils disent « Ah, ok. » Voilà. Et là, ça s'arrête. Mais après, franchement, on partirait pas forcément en vacances ensemble, voilà, c'est sûr. Mais pour moi, ce qui domine, c'est quand même un sentiment de fraternité, d'échange. Et ça nous permet de dire, bon, ok, on sait qu'il y en a qui vont voter RN, on sait qu'il y en a qui ont des réflexions racistes ou homophobes. Mais il y a des moments où on peut dépasser ça et où on peut vivre autre chose.
Je pense que les mobilisations aujourd'hui, c'est avant tout des mobilisations d'éleveurs. En tant qu'éleveur, on se sent tous touchés par ce qu'arrive aux collègues. Ça fait 6 mois qu'on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se demandant quand c'est que c'est les nôtres qui vont partir dans des bennes derrière des camions. Donc ça passe au-dessus du côté syndical et puis des divergences politiques, quoi. Puis les collègues, y a pas besoin qu'ils soient de la coordination rurale pour être racistes. J'ai fait 5 ans de lycée agricole, les 2 lycées agricoles du département. Je pense que j'ai entendu assez de remarques racistes, etc. Et puis qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont pas tous à la coordination rurale. Dire syndicat majoritaire, ils votent aussi énormément Rassemblement national. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les campagnes qui votent à l'extrême droite parce qu'ils ont peur de l'autre, parce que peut-être que comme il y a eu la convergence de la Confédération paysanne et de la CR, un jour il y aura une convergence des quartiers populaires et des campagnes pour ce recul des services publics, pour ce délaissement, quoi.
Le clocher sonne dans le petit patelin, les cloches résonnent dans le ciel bleu du matin. Coup de klaxon, la boulangère n'est pas loin. On affectionne ses croissants, son pain au levain. Le village est paisible, on entend les oiseaux chanter. Entouré de champs fertiles et de forêts enchantées, les bousses décorent le bitume et parfument l'atmosphère. Les villageois sont si fiers de leur petit bout de terre. Et j'en place une, s'il vous plaît, pour les petits patelins.
C'était Dermatose bovine, l'abattage du troupeau, un reportage de Pauline Mocor réalisé par Clémence Gros et mixé par Élise Leu. Merci à Céline et à Cédric Lhomme, à Justine Barbier, à William Cizel, à Nicolas et Virginie Bonguet, à Laurence Lyonnais et à Mehdi Meslop, ainsi qu'à Emmanuel Berger et Jean-Charles Faucheux. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Nina Morel.
Il y a cette jolie fontaine où jadis on lavait les vêtements, les beaux géraniums de Germaine et le fer buisson de Constant. Il est bon, mon petit village, toutes les heures c'est une symphonie.